À savoir Stéphanie Fontaise et Stéphane Barascud. Et c'est pour le vernissage de l'exposition intitulée Au fil de l'autre. Alors il y a quelques petits changements puisque le vernissage est le 11 septembre et pas le 1er, mais ils nous expliqueront pourquoi. Ensuite, c'est une exposition collective et surtout, ce sont des adolescents qui ont réalisé les dessins qui sont exposés ainsi que les textes qui sont écrits. Et ce sont des adolescents venus d'univers géographiquement divers et ça croise un événement ô combien crucial, à savoir le problème des migrations, puisque tous ces jeunes souvent ont fui leur pays. Et ils sont accueillis à Toulouse au centre départemental de l'enfance et de la famille, qu'on appelle plus communément le C2F. Et à l'intérieur de ce centre départemental de l'enfance et de la famille, il y a un service d'accueil et d'activité de jour. Et donc c'est dans ce cadre-là que Stéphanie et Stéphane animent des ateliers. Stéphanie anime des ateliers d'écriture. Elle a proposé aussi l'activité picturale, et Stéphane Barascut, qui est musicien et compositeur, nimbe le tout d'un point de vue sonore et musical. Bonjour à tous les deux, bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Peut-être Stéphanie, retracer brièvement la présentation de ce centre et comment vous êtes arrivée là et puis comment tout cela s'est fait. Il faut préciser qu'il y a aussi Ridja qui est une éducatrice et qui sera là qu'à 20h parce qu'elle est ailleurs et elle fait ce qu'elle
elle
peut.
Arrive.
Et je précise aussi, avant de vous laisser la parole, dans 25 minutes d'interview à peu près. Ensuite, il y a une petite astuce musicale et sonore. Et puis après, vous, Stéphanie, vous irez dans la salle d'exposition, vous lirez des textes, un texte, et Stéphane vous accompagnera à la guitare.
Oui.
C'est tout juste jusqu'à présent ? C'est bon. D'accord.
C'est juste.
Alors peut-être, le centre départemental précisé.
Alors moi, ça fait 2 ans que je travaille là-bas. Alors comment on s'est rencontrés, c'est vrai que c'est important de parler de Ridja parce que c'est surtout grâce à elle que cette rencontre s'est faite. Ridja cherchait quelqu'un qui ait envie d'animer un atelier d'écriture et qui pense la notion d'écriture un peu au sens très large, puisque c'est vrai que la plupart des jeunes adolescents avec lesquels je travaille sont des migrants qui viennent d'arriver sur le territoire parfois depuis quelques jours et qui ne maîtrisent pas forcément la langue. Donc c'était l'idée de trouver quelqu'un qui s'empare de la notion d'écriture comme l'expression, on va dire, l'invention. Moi, j'aime bien dire que je fais des ateliers d'invention, ça me paraît plus juste qu'écriture. Et à l'intérieur de ça, il y a de l'écriture et puis il y a d'autres choses, comme vous dites par exemple sur cette exposition. Il peut y avoir un travail autour de la peinture, autour du collage, autour du montage sonore, autour... j'essaye de
tout un univers artistique en fait.
Tout ce qui me paraît...
tout ce qui peut les aller au fond, au plus profond d'eux-mêmes et leur permettre de s'exprimer.
Vraiment sur une voie de l'expression, une expression intime et poétique, j'y tiens parce que...
Bien sûr.
C'est vrai que quand je pratique des ateliers d'écriture, moi ce qui m'intéresse c'est quand même vraiment ou la poésie ou le théâtre, ou en tout cas des choses qui vont dans l'intimité ou dans l'oralité. Je ne perds pas de vue ça, cette nécessité d'aller toucher une forme poétique.
Et deux mots peut-être sur le centre, brièvement pour situer, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est financé par le conseil départemental.
C'est une structure qui dépend du conseil départemental, c'est la protection de l'enfance et des mineurs. À ce titre-là, les migrants qui arrivent sur le territoire et qui sont mineurs
sont accueillis
de fait de la protection de l'enfance et donc sont accueillis au CDEF de Toulouse en accueil d'urgence. Ça veut dire qu'ils sont accueillis immédiatement là, mais que ça peut être pour des durées très courte ensuite en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont
envie de faire.
Ils sont hébergés sur des foyers qui peuvent se situer sur le département, parfois un peu plus loin de Toulouse. Donc les jeunes que j'ai, certains je vais les avoir pendant 2 semaines, 3 semaines.
Oui, c'est très éphémère en fait.
C'est éphémère. Certains ça va aller jusqu'à 3 mois. Mais c'est vrai que ils n'ont pas vocation à rester
là
sur
longtemps.
Cette structure dans la durée, puisqu'ensuite ils sont orientés sur des foyers Voilà, sur Toulouse, les environs, parfois un peu plus
loin.
Qu'on les perd un peu de vue.
Et justement, comment travaillez-vous, puisque c'est un peu sur un temps très court, pour, en sachant que déjà, il ne manie pas forcément tous les arcanes de la langue, c'est déjà une chose. Et ensuite, bon, qu'ils vivent des choses quand même douloureuses, malgré tout, qu'ils ont certes beaucoup de courage. Et, donc, et puis, ce que vous leur demandez, c'est malgré tout de parler d'eux, enfin, même si c'est de façon détournée, de façon poétique, j'entends bien, mais c'est quand même quelque chose qui, qui les touche de très près. Donc, ce n'est pas si simple, malgré tout.
Je crois que paradoxalement, je travaille dans la durée, en fait, je crois. Parce que. Voilà, j'essaye toujours de leur montrer que ce qu'on mène comme projet, ce sont des longs projets et qu'ils sont à un bout, à un endroit de ces projets-là, qu'il y a eu des paroles avant eux, que d'autres
vont, se mettre
d'autres
en place,
vont s'emparer
succéder.
De leurs mots aussi, hein, puisque voilà, régulièrement j'organise des lectures par exemple et... Les jeunes qui viennent lire vont lire des textes qui ont été écrits par d'autres. Avant. Donc c'est vrai que cette notion de durée, elle est quand même importante. Et de leur montrer que voilà, c'est un fil et que ça traverse, voilà, qu'il y a quelque chose qui traverse.
Non, c'est un maillon d'une chaîne, en
et
fait.
Et que je ne suis pas justement dans le uniquement ponctuel ce qu'on va faire en une séance. Voilà, je ne sais pas si ça marche et si ça répond pleinement à la question.
Mais si, si.
Non, voilà, non, mais... je crois que je suis quand même guidée par ça. Et puis on essaye avec Rija d'avoir une espèce de thématique sur toute l'année. Je ne sais pas si thématique c'est très juste, mais en tout cas, voilà, d'avoir un projet qui nous guide sur l'année. Donc là, pour cette exposition, c'était l'eau.
L'eau, oui. Voilà. L'eau, élément indispensable, voilà, dans nos conditions d'humain.
C'est vrai qu'on essaye de se donner... une sorte de fil conducteur qui nous permet aussi de les guider sur une année entière.
Parce que là, l'eau, c'est très porteur, parce que c'est bon, source de vie, mais des fois, bon, malheureusement, de mort
et
aussi.
De mort aussi.
L'actualité nous rattrape tous les jours. Mais aussi, l'eau, ça peut prendre différents visages, si je puis dire. D'ailleurs, en voyant l'exposition et les textes aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de directions, si je puis dire.
C'est vrai que c'était la proposition de Rija au début de l'année de travailler sur l'eau, parce que, un peu par coïncidence, en fait, parce qu'ils ont été intégrés dans le parcours de Rio Loco sur les 20 ans de Rio Loco autour de l'eau. Et puis, voilà, elle m'a proposé ça, j'ai dit oui. Et puis, j'avais l'idée que derrière cette eau, il pouvait y avoir beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure des déclinaisons, on a travaillé sur plein d'eau possibles. D'abord sur l'eau, le fleuve, la mer. Du coup, forcément, pour eux, la traversée, l'autre rive.
De l'autre côté de la Méditerranée,
voilà,
c'est le cas
de
le dire.
Et puis, j'ai vraiment essayé de décliner aussi avec eux l'eau au sens liquide. Et du coup, de les ramener plus sur une intimité. Donc, il y a la mer extérieure, finalement. Et puis, il y a l'eau liquide.
La mer intérieure.
Voilà. Et donc là, on va toucher le sang.
Les larmes.
Les larmes, voilà, tout ce qui est vraiment organique, qui est un sujet qui, en plus, moi,
vous intéresse.
Intimement m'intéresse. Voilà, donc on a travaillé aussi sur ça. Et puis, du coup, sur les passerelles entre les deux. Et c'est vrai que dans l'exposition, ça donne de très belles choses, parce qu'on a des mers de sang ou des fleuves de pétrole. Enfin, voilà, tout ce qui peut être intérieur et extérieur. Comment les liquides circulent entre l'intérieur du corps, l'extérieur, puis la projection, l'horizon. Voilà.
Oui, ce que cela suppose, ce que cela évoque pour eux, comment ils le ressentent, comment ils le vivent. En fait, c'est tout ce travail que vous avez fait durant toute l'année. Peut-être, Stéphane, on va vous entendre, puisque bon, vous accompagnez Stéphanie dans ce périple, si je puis dire. Il faut préciser que vous avez fait des spectacles déjà avec elle, que vous l'avez accompagnée dans d'autres démarches artistiques, toujours dans des domaines quand même un peu compliqués, dirons-nous, enfin assez complexes, d'un point de vue humain. Et donc, comment vous avez décidé de l'accompagner encore sur ce projet-là?
C'était une proposition.
C'était une évidence.
Il y a deux ans. Au départ, de travailler plus sur les lectures. D'ailleurs, on avait fait une lecture ici même avec des jeunes.
Des jeunes. Oui.
L'année dernière, on a poussé un peu plus. Je dirais, on est. Il y, y a eu ce travail à partir de son dos.
Ouais, de création sonore, en fait.
On n'était plus sur des lectures accompagnées. Mmh. C'était vraiment comment, en leur proposant des sensations, vraiment, comment on arrivait à de la parole. Et c'était vraiment sur une journée entière, partagée avec eux.
Non-stop, oui.
Ouais. Donc c'était vachement chouette. C'était une façon de les rencontrer de plus près.
Mmh. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer à l'autre micro?
Il y a tout un travail de création là, de création vraiment divers, multiple, si je puis dire, puisque bon, dans ce que vous aviez, puisqu'il faut dire que une partie de l'exposition qui est présentée à Canal Sud jusqu'à la fin du mois avait été présentée la première quinzaine de juillet,
la deuxième quinzaine de juillet.
Archipel. Et donc il y avait eu un univers sonore qui était restitué.
Oui.
Et puis quand vous étiez venu aussi en parler au mois de juin ou mai, je ne me souviens plus, il y a de la musique que vous composez, mais après il y a tout un travail sonore, un peu comme ce que font les bruiteurs.
Oui, mais c'est ce que...
Pour les dramatiques notamment.
C'est les sons à partir desquels on a travaillé.
Vous avez trituré, agencé, en fait. Ouais.
Bon, on a cherché des sons qui pouvaient être... qui pouvait être évocateur et porteur aussi. Donc,
qui pouvait coller aux propos.
Ouais, ouais, ouais. Et qui pouvait leur parler à eux aussi. Parce que c'est avec ça
c'est important.
C'est ça qu'ils ont eu dans les casques aussi et qui a fait que. Qui les a portés sur la journée. Donc,
Oui, parce qu'un son, j'imagine, ça peut renvoyer à des souvenirs, évoquer certaines choses et donc après aussi donner un coup de pouce, si je puis dire, pour l'écriture et pour la peinture. Enfin, il me semble.
Oui, ça. Et puis c'est vrai qu'on a. À partir du matériau de son, on a essayé d'amener une expression sur des sensations, sur des couleurs, sur des sentiments, sur des images, sur voilà, comment ce matériau peut être à la source de différents mots, différentes sensations. Et puis voilà, on est parti sur des choses très différentes, sur des chants aussi. Mmh. Il y en a beaucoup qui ont chanté. Et puis à partir de ça, on a eu un gros matériel de 6 heures d'enregistrement, je crois. Et puis qui est devenu quelques minutes de montage. Mmh. Voilà, qu'on a essayé de rendre, j'espère, cette ambiance, cette sensation. Mais c'est très, très varié, en fait. Et en même temps, je pense que c'est une expérience qu'on renouvellera parce que ça a une réelle richesse. Ça part très, très vite.
Ouais. C'est vrai, c'est tout un panorama sensoriel comme ça, qui s'ouvre. Et donc, qui forcément induit la parole, mais aussi réveille les souvenirs. Enfin, et puis ça, permet aussi
c'est ça. C'est surtout ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué.
De relever la tête, si je puis dire. Pardon.
C'est ça qui m'a marqué, moi, tout ce que ça réveillait, en fait, tout ce que ça faisait remonter.
Ça, oui, parce qu'une musique, forcément, c'est la musique, j'imagine, de leur pays, enfin, avec laquelle ils sont nés, enfin, qu'ils ont entendu bébé, peut-être, ou peut-être durant leur petite enfance. Et donc, ce sont des choses comme ça qui, après, leur permettent, eux, de pouvoir se livrer.
Je pense, oui. Donc on a recueilli des très belles choses. Des choses assez dures aussi.
Ça va un peu de pair, parce que vu la situation, c'est vrai que vu leur situation, ce n'est pas forcément toujours facile. Et j'imagine, puisque bon, vous parlez de larmes dans les textes, dans les dessins peut-être, il y a peut-être eu aussi des larmes...
Pas tant que ça, j'évite.
Non mais ça peut arriver, quoi, je veux dire. C'est pas... Parce que ce sont des gens très jeunes, malgré tout.
Oui, alors ils ont
moins de 18 ans.
15 et 17 ans. Après, il y a une réelle pudeur aussi. C'est vraiment un travail d'équilibriste entre leur pudeur, leur douleur, et puis l'urgence d'être dans la joie, vraiment. Et
de vivre.
L'espoir et de vivre.
De vivre, oui.
Et puis voilà, d'être sur un présent qui est très incertain pour eux. Ouais. Ils sont là, ils ne savent pas où, ils ne savent pas combien de temps.
C'est un peu bancal, oui.
Voilà, il y a des choses compliquées. Donc c'est vrai que même si les ateliers vont évoquer des choses... qui peuvent être parfois compliquées et intimes, j'essaye toujours de faire en sorte que voilà, se vit une réelle satisfaction partagée surtout, hein, et que voilà, les choses soient lues, entendues, regardées par tous, et du coup forcément on n'est plus dans la douleur intime, ça traverse très vite, on traverse très vite ça, parce qu'à partir du moment où il y a un groupe, c'est important,
oui,
c'est partagé, c'est
stimulant,
voilà, c'est mis en mouvement, en parole, en mots, en musique. Et voilà, ça, on arrive rapidement à passer à autre chose, à être sur du présent.
Du concret, du positif, concret, de la joie, enfin
exactement.
Et de la création.
Ouais, et puis voilà,
c'est vraiment création. Tout un travail artistique, quoi, c'est vraiment le cas de le dire. Et peut-être, puisque là il s'agit, bon, il faut préciser que durant l'exposition, donc, vous pourrez admirer et les dessins, et les collages, et les peintures sur cailloux, et aussi les textes qui ont été écrits durant ces ateliers. Pouvez-vous nous parler de quels matériaux avez-vous proposé pour justement dessiner ou peindre ou...
Alors, je ne suis pas très douée en peinture. Je pense que des gens, j'ai une amie qui mène des ateliers de peinture. Il faudrait peut-être que je fasse une petite formation avec elle. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est la matière, déjà. C'est qu'on part sur du liquide.
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Du liquide, voilà, qui peut faire de la tache, qui peut faire de la goutte, qui peut faire une pluie. Donc, on a vraiment commencé à partir de ça, en s'amusant vraiment sur ça. J'ai jamais vraiment idée de ce que ça va devenir et de ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment un départ... purement sensoriel en général, et puis voilà, voir jusqu'où ça nous amène, qu'est-ce que ça produit, voilà, et petit à petit des choses se sont fabriquées, des consignes se sont ajoutées à ça, sur voilà, si je fais une goutte mais que je l'associe à un liquide corporel et non pas un liquide extérieur, qu'est-ce que ça peut être,
ça donne,
si je l'associe à une couleur, qu'est-ce que ça peut être, et puis petit à petit on a fait des assemblages comme ça. Et ça donne des choses que je trouve assez belles, hein, mais voilà, qui n'étaient pas du tout anticipées comme telles. Y a une forme de naïveté, forcément.
Il y a un effet de surprise aussi, vous voulez dire ?
Oui.
Au final.
Au final, en tout cas, je pense que eux se sont assez surpris.
Oui, parce que c'est vrai qu'on lance un peu de peinture sur une feuille. Qu'est-ce qu'après ?
Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, voilà, c'est toujours chercher l'association de la lettre, l'association du mot, du son. Voilà, des pluies qui deviennent des barreaux. Par exemple, ben, qu'est-ce que je mets comme mot derrière, voilà, je les ai fait beaucoup travailler aussi sur l'empreinte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Ben oui, en plus c'est, ça a du sens.
Qui raconte, donc voilà, c'est quelles sont ces traces de pieds, ces traces de mains au milieu de la peinture, ces traces de doigts. Voilà, pour moi l'empreinte était essentielle sur tout ce travail-là, et puis ça remplace le mot parfois.
Oui, bien sûr, oui, parce qu'il faut préciser aussi que dans l'exposition, il y a aussi des grands panneaux avec justement les empreintes de
pieds. Les empreintes de pieds, de mains.
De mains.
C'était évoqué la question de la traversée.
Oui, bien sûr,
Et puis de...
De tout ce long périple.
Voilà, et puis du fait de croiser d'autres personnes, d'autres traces et d'autres empreintes aussi. Donc je les ai fait travailler à deux ou à trois sur des rouleaux de papier avec des traces de pieds, des pieds trempés dans la peinture, tout ça, qui marchent et puis qui se croisent et puis qui s'effacent et qui reviennent. Et voilà,
oui, sur la fugacité aussi, parce qu'en marchant sur un papier, au début c'est très foncé, dirons-nous, et puis après c'est décliné. Quoi.
C'est décliné et puis ça s'échappe.
Oui, après ça part en petite poussière, si on peut dire. Petite gouttelette encore.
Voilà, c'est vraiment ce qui me guide au départ. C'est vraiment plus les matières que l'objet artistique. Voilà, j'aurais pas de prétention du tout de passer par la peinture en tant que telle.
J'en suis
incapable. Mais voilà, cette matière, peinture, c'est les gouttes, les couleurs.
Et donc, ça permet une esprit, ça leur permet de s'exprimer et de dire des choses. Et
je pense.
C'est quand même. Parce que...
Oui, en tout cas, c'est un objet qui est ludique aussi. Oui. C'est un objet qui est ludique. Et puis, voilà, les cailloux, c'est la même chose. C'était l'envie de toujours laisser une trace.
Il y a toujours aussi la matière, le sol, voilà,
c'était mon
le relief.
Départ, c'était le ricochet aussi. J'aimais l'idée, cette idée de leur dire, voilà, le caillou qui va d'une berge à l'autre. Et ben, du coup, voilà, on s'est emparé de ces cailloux. Il y a eu des dessins, puis il y a eu des lettres. Et puis, comment plusieurs cailloux peuvent faire un mot. Et il y a tout un côté que je trouve assez beau, c'est Ils sont partis, c'est venu complètement au hasard au fil d'un atelier. Ils ont dessiné, ils ont peint des drapeaux dessus. Mmh. Donc ça va être soit le drapeau du pays d'où ils viennent,
d'accord,
soit du drapeau, le drapeau du pays vers lequel ils aimeraient
aller. Ils souhaiteraient aller, oui.
Il y a souvent le drapeau de la France.
Ouais.
Et puis, sur certains, on a indiqué une notion de durée. Mmh. Donc c'est le temps qu'ils ont mis pour venir
traverser
de ce pays,
d'accord,
jusqu'à ici. Voilà. Mmh. Donc parfois c'est 30 jours, parfois c'est 7 mois, parfois voilà, c'est 11 heures pour ceux qui ont eu la chance de venir en avion. Et voilà, on a quelques cailloux comme ça. Alors qu'ils sont des espèces de choses un peu assez poétiques, assez énigmatiques en même temps, on ne sait pas forcément, mais voilà, il y a le drapeau du Vietnam, le drapeau du Canada, des États-Unis, qui reste un rêve
pour
beaucoup d'entre eux aussi, de la France, de l'Angleterre, et puis ces jours, ces périodes.
Mmh.
Voilà. Donc c'est aussi un travail qui m'a beaucoup plu, ces cailloux. Voilà,
oui, et c'est ce qui, d'une certaine manière, est une forme de repère aussi, dans la mesure où ils indiquent sur les cailloux, enfin, ils mettent le temps, enfin, le nombre de jours, enfin, c'est quelque chose comme ça qu'ils posent d'une certaine manière, pour après mieux avancer peut-être, enfin, je leur souhaite.
Et en même temps, c'est pas si simple.
Ah non, j'ai pas dit que c'était ça.
Non, mais c'est par rapport à ce que tu dis, la notion de repère qui est intéressante, parce qu'en fait, il leur faut très longtemps pour arriver à se souvenir.
Ah oui,
on
pour puiser
combien de jours, combien de mois.
Oui.
On est face à un énorme vide, souvent.
C'est un peu normal.
Alors,
aussi.
Il y a un peu de pudeur aussi, je pense, hein, parce que c'est aussi dire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de dire.
Il y a les tracasseries aussi,
voilà.
Du coup, voilà.
Et puis c'est se rappeler, mais en fait, souvent, ils ne savent pas. Le calendrier, ils ne savent pas.
D'accord.
Entre un mois et demi, deux mois.
Là, oui, ça reste flou.
Voilà, ça va être, je suis partie au printemps, je suis arrivée en été, par exemple, mais poser une réelle durée. Très souvent, ça a été très, très difficile. Et c'est vraiment nous qui les avons accompagnés avec Rija à essayer de se souvenir, à essayer de parler des saisons.
À réveiller leurs souvenirs d'une certaine manière.
Et ce repère-là, du coup, ben, il n'est pas si simple.
Mmh. D'accord. Mais donc maintenant, c'est la surprise. Et ensuite, dans quelques minutes, il y aura la lecture dans la salle d'exposition.
Ouais. Alors peut-être juste présenter la lecture avant... parce qu'on n'aurait peut-être pas le temps de le faire tout à l'heure. Il y avait plein de possibilités sur cette lecture. En fait, il y aurait eu la possibilité de lire certains de leurs textes, mais en même temps...
Ils sont affichés.
Voilà, ils sont affichés. Je trouve un peu pas forcément très utile d'aller les redire. Du coup, j'ai cherché de la poésie, a priori, qui nous raconte, qui est vraiment un lien avec cette exposition. Et j'ai trouvé ce texte de Jeanne Benhammer qui s'intitule « Il y a un fleuve ». Voilà, qui raconte beaucoup de choses, qui raconte la traversée réelle ou imaginaire d'un homme du fleuve à, on ne sait pas quoi, du fleuve au fleuve, très certainement.
D'accord.
Voilà, et c'est... y a plein de choses, notamment l'empreinte, la mère, la mère M-E-R et la mère...
La mère, la maman.
La maman, voilà, qui ont fait écho à cette exposition et à ces adolescents. Donc voilà, on va lire un extrait de ce
recueil. Dans quelques minutes. Et Stéphane, vous présentez peut-être ce que nous allons entendre là, dans quelques secondes, s'il vous plaît.
Ça va être un accompagnement...
Dans les jeunes.
Ah on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est le travail qu'on a mené avec Stéphanie.
Oui, c'est juste pour
jeunes.
Le repréciser, quoi. Pour,
Plus, il y aura aussi un extrait de l'émission de radio.
Faites cette
ici
année.
Ici même,
d'accord.
Cette année.
D'accord. Avec les jeunes,
Ouais. Voilà. Tout petit extrait qu'on avait décidé de mettre sur l'exposition. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
La mer est dangereuse.
La pluie est un bagarre. Amon kano kala kalo wa mai niye Zibon zano kala kense nitur kala
Ko Ondo walilu hibeto na pita Buino maya buino sonjo Naru ande hibe nyama ipa Wabenu nyama ipa wabenu wila Kayasi benata banka banka walu Wubi kainu walu kayasi Le walo dae sonja le piri dae sori Uye ay Kalun City, Kalun City.
Seri fora seri kari, bebe fora bebe kari, beki tawe le bubu, bubu.
L'homme a détourné son regard. Depuis quand a-t-il commencé à marcher ? À partir de la mare d'eau, de la mare de boue, de la naissance du fleuve. Il a posé son regard sur l'horizon comme s'il y avait eu la mer. Pourtant, il n'y avait que la terre, dure, sèche, et quelques pierres. Il a posé son regard plus loin encore pour aller. Le fleuve coulait auprès des jambes de l'homme qui croisait la terre. L'aridité du sol collée à la plante de ses pieds. L'aridité pouvait monter, sécher son sang dans ses veines. Il a tenu le fleuve dans son regard pour le sang. Peut-on dire que cela coulait de l'eau qui ressemblait tant à de la boue ? Peut-on se pencher ? Peut-on se voir ? C'était une eau qui ne pouvait pas refléter de visage. On l'écartait de la main, mais le fond était remonté au bord, déjà. Il n'y avait plus de surface. L'eau était sombre sous l'air. L'homme a perdu son visage depuis longtemps. Son corps ne retient rien que l'air qui passe, qui souffle ses pas sur terre. Il marche. Des arbres qu'on ne voit plus, plus de branches, plus de troncs, rien que les racines sous la terre et l'eau qui tire autour, des forêts entières englouties. L'homme souffre, il entend tous les bruits de l'eau, tous. Souffle de l'air. On tire le temps autour de sa tête et il sait qu'il n'y a pas de main dans le ciel pour caresser ses cheveux. Il va, la tête nue. Entre le ciel et lui, quelques murmures. Peut-être. L'homme ne fait aucun bruit de parole. Les paroles, elles sont quelque part roulées entre les paumes de ses mains. Il les respire comme des herbes qu'on choisit pour parfumer un plat. Mais il n'y a personne. L'homme secoue ses mains au-dessus de l'eau, que les paroles se rassemblent aux racines, qu'elles enlacent les troncs des forêts englouties, qu'elles se perdent. Quelques-unes demeurent, tenues à la chaleur de son poignet, à l'empreinte très ancienne d'une bouche. Le monde lui signale qu'il y a des jours et des nuits. Il dort quand il peut dormir. Parfois c'est en plein midi. La grande lumière du ciel fait un abîme pour ses yeux. Derrière ses paupières, l'homme appelle pendant son sommeil. Il appelle un lieu comme d'autres appellent leur mère. C'est un nom étrange. C'est un pays monotone et doux. C'est son pays. L'homme appelle à voix monotone et douce toutes les syllabes réunies en une seule. Cela fait un son étrange, le son de son pays. Qui peut comprendre celui qui appelle tout bas son pays ? L'homme a des rêves. Il couche sa tête, la joue contre la terre et il regarde comme s'il y avait la mer. Il voit des hommes et des femmes qui agitent l'eau de leurs bras. Il voit des lumières. Il tend la main bien plate pour calmer les vagues. Alors, il ferme les yeux et le fleuve dedans sa tête coule comme un repos. Il marche. Il marche le jour, il marche la nuit. Rien ne se fait d'autre parfois dans le monde, juste ses jambes qui croisent la terre. Et la terre est immobile. La terre porte les hommes et les fleuves, elle porte parfois le ciel dans la racine des arbres. Mais personne ne le voit. Aucune prière n'atteint jamais la racine des arbres. Alors l'homme frappe son talon et recommence encore. La terre le porte. Du fond de sa poitrine vient un chant très ancien, celui de l'empreinte de la bouche sur son poignet. Et il danse. La danse de l'homme est sauvage, ses jambes bondissent haut. La danse lave ses os. La danse lave le chemin. C'est la seule prière que la terre entende. Les prières de bouche ne montent que vers le ciel. L'homme sait qu'il faut la danse et le cri pour laver les paroles inutiles. Parfois, un immense soupir le traverse. Il prend sa tête entre ses deux mains plates ouvertes. Sa tête est un oiseau trop lourd. Il la tire loin de son cou. Les ailes ne poussent pas. L'homme regarde ses jambes. Il tient sa tête entre ses mains et ses jambes courent. Les ailes ne poussent pas. Faudrait-il redescendre les bras ? Faudrait-il cesser de vouloir le ciel au bout de ses doigts ? C'est la nuit. L'homme court, il ne vole pas. Ses deux bras battent l'air noir et ses jambes et la terre continuent de se perdre et se trouver encore. Il ne vole pas. Les pierres trébuchent sous ses pas. L'homme a de longues foulées sans regard, il pleure. Il a vu des océans et des lunes. Il a vu des hommes et des femmes dans des lieux du monde. Et cela ne suffit pas. Il s'est assis au bord. Il a laissé ses pieds nus dans l'eau nue. Il voit encore ses jambes, mais plus près de lui. Des jambes comme des poissons qui ne serviraient à rien. Pas des jambes pour courir la nuit sur la terre. Des jambes pour le reflet, pour l'écaille. Il a touché ses bras, il a touché chaque épaule. Il a retiré de l'eau chacune de ses jambes. Sa peau est froide. On est si proche de la nuit. Ses bras en rond autour de ses jambes pour avoir chaud. Il a posé sa tête sur ses genoux et il a appelé sa mère très doucement. Cela a fait un chant qui venait du froid de ses jambes, du froid de son ventre d'homme. Et le chant a fait venir la nuit plus vite, plus d'oiseaux, plus de lueur. Rien que l'eau qui coule silencieuse sur la terre plate, le chant de l'homme qui appelle sa mère n'a pas d'écho, ne résonne pas, n'apprend rien aux autres hommes, ne perce pas l'obscur qui entoure l'homme si petit. Le chant de l'homme qui appelle sa mère remue quelque chose dans le ciel, très loin. Le chant de la mère en écho n'a pas de parole, juste une vibration. Et l'homme attend, dans son sang encore, les paroles du monde tenace et les sangs qui épuisent en lui le souvenir. La langue de la mère ignore l'alphabet, la langue de la mère est un souffle. Il attend. La vibration lointaine. Si l'homme était dans le ciel, loin, loin au-dessus, il verrait qu'il est seul à la lueur du jour. Il verrait la nuit sur le fleuve tomber. Il penserait à lui comme à une étoile. Il s'est remis en route. Dans son œil est fichée une part de la terre, une part du fleuve. Il marche, de telle sorte que chaque part soit égale. L'équilibre n'est pas sûr. Il ne rêve pas à l'autre berge. Il apprend à marcher sans rien attendre d'autre que l'espoir. Son attente est large. Autant que le fleuve est large, entre ses deux rives et son soupir immense sur la terre. Il dit des mots, il les chuchote contre la terre, contre sa peau, au secret. Parfois, Il croit entendre dans l'air un murmure. Y a-t-il un écho qui n'a besoin ni de montagne, ni de creux dans la roche? Y a-t-il un écho pour les mots du secret? Un écho à plat sur le fleuve. Y a-t-il une autre voix? Vraiment? Tant de silence dans sa bouche, les paroles parties depuis si longtemps. Maintenant, il se rappelle les paroles des morts. Alors, il sait qu'il est vivant. Sous le fleuve, la mort et la naissance se tiennent par l'épaule. Toute sa vie comme l'eau étroite entre elles. Il est devant la mare d'eau, si petite, et lui, si petit dans le monde. Dans la boue, il voit son visage et ceux de tous les autres reflétés. La boue est un miroir opaque. Il voit tout ce qui est. Il sent dans son corps que la course est très lente. Il n'a parcouru que ce que la mémoire a tissé. Et il sait que l'oubli est plus vaste. Alors, du creux de son ventre d'homme monte la vibration. Il a fermé les yeux et sa bouche rejoint l'empreinte sur son poignet. Il lève le bras très haut, écarte chaque doigt pour que l'air passe. Quand il ouvrira les paupières, il sera loin. Face à la mer, il regardera longtemps l'eau et saura qu'il faut construire le bateau léger comme le souffle. Le bateau qui ne cherche aucune route, qui ne porte rien que lui et la parole nue. Merci. Donc, c'était quelques extraits de ce très beau livre de Jeanne Benhamer, Il y a un fleuve. Voilà, je vous incite à lire, c'est magnifique. Merci beaucoup.